Alors, j'ai le plaisir d'avoir au téléphone Souleymane Bodj, musicien, musicologue, spécialiste du conte africain. Souleymane Bodj, vous êtes né au Sénégal. Vous êtes donc né quelque part dans un des pays de l'oralité, hein, sur ce continent africain qui est la source de cette oralité. Comment est-ce que vous êtes rentré la première fois en contact avec le conte, vous ?
Ben, disons que je suis rentré en contact avec le conte assez jeune, comme dans la plupart des familles africaines et sénégalaises en particulier, parce qu'on raconte beaucoup d'histoires. Mes parents, ma mère, surtout, racontaient pas mal d'histoires. Et donc, tout de suite, on est rentré dans l'oralité, parce que tous les soirs, c'était quasiment un rendez-vous, hein, comme plus tard pour la lecture, un rendez-vous où on nous raconte des histoires avant de s'endormir. Et donc, je me suis imprégné de cette tradition orale qui continue d'ailleurs de grandir en moi jusqu'à l'école, jusqu'à encore plus tard. Donc voilà, donc très très tôt, je suis rentré dedans. Et puis, un peu plus tard, par la lecture aussi, quand j'ai commencé à lire, donc lire des histoires, des contes, mais les contes du monde entier, puisque évidemment, on est dans un pays francophone, donc on avait évidemment les contes, les fables de La Fontaine, les contes classiques européens, des contes du Moyen-Orient, un peu partout. Donc je suis rentré en fait dans le conte par deux voies. La première voie, c'est la voie traditionnelle, disons familiale, comme dans pratiquement tous les pays du monde. Et puis la deuxième voie de source qui m'a mis dans le conte, c'est la lecture. Mmh. Voilà, donc les deux m'ont fait grandir dans le conte.
Est-ce que le conte a le même usage partout en Afrique ou ici en Europe ou ailleurs en Asie?
Ben, je pense que le conte, il faut voir trois usages en fait. Il y a le côté divertissement, où en tout cas on se régale des mots, des phrases, de la musique. Donc ce côté vraiment où on s'amuse un peu avec le conte, on prend du plaisir à écouter. Et puis il y a un deuxième cas qui est beaucoup plus intéressant à mon avis, qui est en fait une forme de transmission, une forme d'éducation, une éducation morale, une éducation philosophique, une éducation politique. Donc voilà, donc à travers les contes, on essaie de nous parler des travers des hommes en utilisant par exemple des animaux ou des esprits, ou bien à travers le conte et même plus le conte, c'est-à-dire la légende, l'origine des peuples, l'origine des langues, l'origine de tels faits historiques, et puis les mythes aussi qui viennent. Par exemple, quand je raconte pourquoi le ciel est-il si haut, c'est une manière de nous raconter l'espace, comment il est. Voilà. Donc on a ces trois fonctions, et en Afrique particulièrement, je pense, parce que c'est une société très, très orale, hein, même si l'écriture a existé, où on transmettait beaucoup, beaucoup à travers les contes, les légendes et les mythes. D'ailleurs, il y a un mot en Wolof, moi je dis lep, lepkat qui veut dire le conteur, lep, c'est enseigner avec des symboles. C'est enseigner en racontant une histoire. Parce qu'on dit, si vous voulez que les connaissances fassent le tour du monde, comme on dit très souvent, il faut les confier aux enfants. Et là, le fait de dire cette phrase, ça veut dire aussi qu'il faut confier les connaissances à travers aussi une histoire. Parce que s'il faut transmettre un savoir, mais il faut en faire une histoire. Ce sera beaucoup plus ludique pour entrer dans l'histoire.
Alors, il y a l'histoire, le conte, l'histoire qu'on raconte. Et puis, il y a aussi, justement, cette histoire qui se transmet au travers du conte. C'est-à-dire le passé que l'on raconte au travers du conte.
Oui, absolument. D'ailleurs, on dit aussi que le conte, c'est une histoire qui est d'hier, qui est racontée aujourd'hui pour le lendemain. Vous voyez. Donc en fait, il y a toujours une histoire qui passe à travers un conte. Toujours, toujours.
Souleymane Bodj, est-ce que justement cette tradition du conte transmise par les griots en Afrique de l'Ouest, elle perdure encore ou est-ce qu'elle est en train de s'essouffler avec le monde moderne?
Ben, il y a deux phases. La première phase, c'est qu'on avait commencé à perdre un tout petit peu cette tradition avec les nouveaux médias et puis le fait que les sociétés se modernisent de plus en plus. Il y a beaucoup plus de jeunes, notamment en Afrique, où la majorité de la population est très jeune. Et depuis, on peut dire une, j'allais dire une vingtaine d'années peut-être, ou un peu moins, ou un peu plus, je ne sais plus, il y a eu un renouveau. Donc les gens reviennent au compte. Il y a par exemple des cases, ce qu'on appelle des maisons du compte plutôt, ou des cases de compte, en tout cas au Sénégal, il y en a pas mal, dans pas mal de régions, dans pas mal de villes, où les compteurs reviennent raconter et on redécouvre les textes. Par exemple, on a beaucoup appris le français avec les contes, notamment les textes de Senghor. Senghor était, a écrit des livres de contes. Son premier livre de contes, les histoires de Luc le Lièvre, tout le monde le connaît par cœur. Et puis il y a eu Birago Diop, qui fut un vétérinaire de l'école de Maison Alfort, qui est rentré en Afrique et puis qui a transmis les contes d'Amadou Koumba. Donc on a appris la lecture, on a appris à aimer la littérature à travers donc ces auteurs qui étaient des grands écrivains francophones qui nous ont transmis des contes. Donc ça veut dire que le conte a été aussi un passage. Après, on l'a perdu, comme je disais tout à l'heure, enfin perdu pendant un moment, parce qu'évidemment, il y a la télévision, il y a les radios, il y a beaucoup de choses.
Il y a Internet, il y a les réseaux
Internet,
sociaux,
voilà.
Ou en
Voilà,
Afrique, il y a même des, voilà, on a aujourd'hui accès sur son téléphone via la
voilà.
4G
Ah oui,
à
partout,
tous ces médias, quoi. Ouais.
Voilà, donc du coup, il y a quand même un renouveau, enfin un renouveau, c'est jamais parti, mais parce que les contes existaient toujours dans les familles. Après, c'est revenu maintenant parce que tout simplement, on a cette nécessité, ce besoin, ce désir de culture, ce désir d'aller au fond des choses parce que le conte aussi nous permet de voir les choses, comment elles sont, et surtout de voir l'universalité du conte. C'est-à-dire que dans les contes d'Afrique, en tout cas, les contes que je pratique, ce sont des contes où la forme, elle est locale, une forme africaine, mais le fond est toujours universel. C'est-à-dire transmettre des valeurs, dénoncer des injustices, donner de l'espoir et puis faire plaisir par la musique, par le geste, par la parole. Donc on a ces deux piliers du conte en Afrique qui sont là. Donc d'un côté le local et puis l'autre l'universalité du conte.
Souleymane Bodj, est-ce qu'il y a des modes et des évolutions dans le conte africain et la façon de le conter?
Oui, absolument. Il y a des, j'allais dire, des évolutions plus que des modes. Tout simplement parce que les conteurs de plus en plus se basent aussi sur les, sur la réalité sociale. Donc il y a des contes, on observe, par exemple, ce qui se passe dans la société et puis on raconte l'histoire. Donc il y a des faits qui sont racontés. Donc ça, je pense que c'est une forme d'évolution où on ne raconte plus que des histoires qu'on nous a transmises. Mais on crée des histoires aussi à partir des faits de société. Par exemple, moi je raconte beaucoup des histoires qui sont sociologiques, par exemple, ou en tout cas par rapport à l'école. Voilà, faire des contes où on valorise la transmission, le savoir, la connaissance. Donc voilà, ça, ce sont des faits. Je dis nouveau entre guillemets, parce que probablement ça se faisait déjà à une certaine époque.
Ils sont adaptés à la, comment dire, à l'actualité, c'est-à-dire
Voilà,
on sait
c'est
que
ça que je
dans le conte africain, il y a beaucoup les animaux de la savane, etc., etc.
Ouais.
Mais aujourd'hui, les Africains qui vivent en ville sont presque aussi éloignés de
Oui,
ces animaux-là que les
absolument.
Européens vivant.
C'est pour ça qu'on leur raconte les histoires, parce qu'ils ne les voient pas. Ils habitent en ville, mais ils ne les voient pas. Non, ça dit qu'en fait, les animaux sont utilisés pour. D'abord, il y avait deux. Pourquoi on les utilisait? Un, l'homme aime critiquer, mais n'aime pas qu'on le critique. Pourquoi on utilise donc les animaux? Deux, il fallait se protéger donc de la société, se protéger des puissants. Quand je dis qu'un roi était fou, un lion complètement fou, et ce roi, évidemment, on parle d'un roi qui est fou, parce
Oui,
qu'il est
on a un
dans
bel
l'histoire.
exemple avec Jean de La Fontaine et ses fables là.
Voilà, voilà, voilà. Donc on utilisait les animaux toujours parce qu'en plus de ça, en Afrique, chaque animal a un symbole. L'animal, il est ombre et lumière comme les hommes d'ailleurs. Par exemple, le lion, c'est qui est symbole de puissance, de force, qui est d'ailleurs l'emblème du Sénégal avec le baobab. On le trouve un peu partout. D'ailleurs, même l'équipe de foot s'appelle les Lions de la Teranga, donc voilà, ou les Lions indomptables du Cameroun. Donc le lion est toujours symbolique, c'est la force. C'est la puissance et en même temps c'est le paresseux, parce que le lion ne chasse jamais, ce sont les lions qui chassent, mais il est là protéger. Donc, il y a ce symbole. Il y a la hyène, que j'aime beaucoup, qu'on utilise, qui est méchante, malhonnête et tout. Donc, ce sont côté ombre. Mais côté lumière, c'est la hyène qui est l'éboueur de la savane. C'est la hyène qui mange les restes des animaux morts. Et ainsi, ça évite les maladies. Bon, quand je dis, par exemple, une hyène, symboliquement, c'est la personne qui est toujours gentille avec vous quand vous n'allez pas bien. On dit ça, c'est une hyène. Elle est toujours sympa quand vous n'allez pas bien. Elle vous fait son sourire. Voilà, là, elle prend de la puissance parce qu'elle sait que vous n'allez pas bien. Mais quand vous êtes bien, quand vous êtes heureux, alors là, cette personne ne vous supporte pas. Elle devient méchante. Donc ça, il faut aller contre plus la hyène. Le singe, c'est la personne qui est ingrate, qui plutôt qui pense qu'à elle. C'est-à-dire que le singe trouve un arbre fruitier où il y a des très bons fruits. Qu'est-ce qu'il fait? Il va cueillir ce fruit, il va aller sur l'autre arbre où les fruits sont amers et se met au sommet pour grignoter, manger, croquer son fruit. Alors les autres vont penser que le bon fruit se trouve sur cet arbre-là. Ils vont tous se ruer sur cet arbre. Et là, une fois que tout le monde est là, ben lui, il change. Donc, quand on parle du singe qui est ombre et lumière aussi, qui est très intelligent, c'est son côté très, très malin, mais en même temps, qui ne pense qu'à lui-même, le singe. Donc, vous voyez, on utilise donc les animaux pour parler des hommes comme le faisait Ésope, comme le faisaient d'autres. Mais en même temps, ce qui est un peu plus en Afrique, c'est que les animaux portent, certains animaux qui sont totémiques, portent les mêmes noms que les êtres humains. Par exemple, quand on dit Ndiaye au Sénégal, qui est un nom très connu, ça veut dire le lion. Quand on dit Diata au Mali, en Mandingue, c'est le lion aussi. Diata, Ndiaye, ce sont des lions. Donc, ils portent des noms totémiques. Ça veut dire que les familles de ce qui portaient ces noms-là, à l'époque, protégeaient les lions. Voilà. Quand quelqu'un venait, on leur disait, attention, le lion, c'est notre totem, il ne faut pas y toucher. C'était, à mon avis, une manière assez rationnelle de protéger les animaux contre certains braconniers. Donc voilà, les tourés, c'est l'éléphant, par exemple. Voilà, on a plusieurs exemples comme ça.
Alors, Souleymane Bodge, vous allez être parmi nous mercredi dans le cadre de Partir en livre. Vous allez conter des histoires à la médiathèque de Montauban l'après-midi. La façon de conter des histoires à un public de jeunes Africains ou à un public de jeunes Européens ou de jeunes Français est-il la même?
C'est exactement la même chose. Ce qui change, en fait, quand je compte dans un public, évidemment, des Africains qui sont en Afrique, celles qui connaissent, qui connaissent, hein, parce que ceux qui sont loin, peut-être, ne connaissent pas toujours, ils ont les mêmes. Ceux qui connaissent, en plus, je peux faire référence à des, quand je parlais par exemple tout à l'heure des symboles ou même des totems, pour taquiner, si je vois que dans la salle il y a des tourés ou il y a des niailles, je peux taquiner en parlant de l'éléphant, le gros éléphant, le touré. Donc il y a quelque chose qui est un lien qui est lié à la langue, mais c'est exactement la même manière de raconter, sauf que selon le cadre où l'on se trouve, évidemment, quand je compte à Montauban ou ailleurs, je peux faire des références à l'environnement où je me trouve. Par exemple, quand je dois décrire un plat dans son compte, je fais toujours un petit clin d'œil à ce qui se mange localement ou à ce qui se boit localement. Donc, vous voyez, on a toujours donc ces aspects-là pour faire un clin d'œil au lieu où l'on se trouve.
Oui, parce que il faut que le public, entre guillemets, puisse s'identifier. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même moins de réactions, on se trouve moins autorisé, quand je dis on, c'est d'ailleurs public adulte comme enfant, hein, se trouve moins autorisé à répondre, à haranguer le conteur que, par exemple, au Sénégal ou ailleurs.
Ça dépend du conteur, ça dépend. Il faut les prendre par la main. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je compte partout en France ou ailleurs, surtout en France, je fais participer le public, qu'il soit enfant ou adulte. D'abord parce qu'il y a des questions. Quand il y a, par exemple, un groupe d'adultes dans la salle, il y a toujours plusieurs catégories de contes que je raconte. Toujours, il y a des contes qui s'adressent aux enfants et puis d'autres qui vont toucher les adultes qui les accompagnent. Quand je raconte une histoire, en commençant par une question, par exemple, dans le mariage, est-ce qu'il y a du bon ou bien il n'y a que du bon? Vous voyez, les adultes Oui, les adultes, tout de suite, vont poser des questions. Ou bien des fois, je leur demande, mais pourquoi on ne se souvient pas du futur? Ah là, je commence à réfléchir là-dessus. Donc, voyez, il y a toujours des petits clins d'œil pour les amener à participer à l'histoire.
Oui,
Je trouve ça
à faire en
intéressant.
sorte qu'il soit pas trop passif.
Non, voilà, c'est ça, parce que c'est un partage. C'est pour ça que je l'appelle les contes de la Teranga qui veut dire en langue wolof parlée majoritairement au Sénégal. C'est un concept qui relie les valeurs de partage, d'hospitalité et d'accueil. Ça veut dire que les contes doivent se partager. Ça veut dire que quand le conteur est là ou la conteuse, il faut qu'il soit généreux, il faut qu'il soit généreuse, il faut qu'il puisse prendre la main, discuter, dire voilà ce que je vais vous raconter, voilà ce qu'on va faire ensemble. Et pour cela, on les fait participer. Par exemple, quand je chante, il y a souvent des refrains qui sont repris par les spectateurs, les auditeurs, parce qu'il y a toujours des parties françaises, des parties en langue qui sont chantées. Donc, vous voyez, donc on partage en fait. On essaie de partager en tout cas. Ça dépend du compteur.
Alors, donc, vous serez là pour partager en live, comme on dit, hein, vous
Oui,
compterez
oui.
à la médiathèque mercredi après-midi à Montauban. Le reste du temps, vous faites des livres, des albums, des livres-disques, des spectacles de musique aussi. Et quelle est votre actualité du côté de ce qui est édité en ce moment, Souleymane Bodj?
Alors, je viens. J'ai deux livres qui sont sortis pendant les confinements, heureusement. Donc, un chez Flammarion, Père Castor, un livre qui s'appelle Mina et Waraba. Justement, j'ai trouvé deux noms qui sonnent jolis, sympathiques, parce que c'est du bambara, c'est du mandingue. Mina, c'est la reine des girafes, et Waraba, c'est le lion, donc comme on dit chez les bambara. Donc, l'histoire d'adoption, un conte que j'ai dédié à tous les parents qui offre une famille heureuse aux enfants d'ici et d'ailleurs. Donc, c'est une girafe qui va adopter, qui va recueillir un lionceau et malgré les mises en garde de ses congénères, hein, adopter un petit lion, c'est dangereux, il va devenir grand, il va être méchant, enfin bref. Donc, c'était aussi pour rendre hommage à toutes ces familles qui offrent une famille heureuse aux enfants. Donc voilà, ça c'est le premier qui est sorti récemment chez Père Castor, donc Flammarion, qui est un livre censé être un petit livre en conte. Et puis l'autre qui est sorti chez Milan Jeunesse, qui est donc mon éditeur principal, parce que j'ai fait beaucoup de livres avec Milan Jeunesse, qui est un livre CD qui s'appelle Contes d'Afrique sur la sagesse. Donc justement là, ce sont des contes initiatiques, des contes philosophiques, mais qui touche tout le monde, hein, les enfants comme les adultes. Et là, je parle justement de la liberté et la vérité. Par exemple, qu'est-ce qu'on choisit entre la liberté et la vérité? Ou quand je parle du voyage au pays du fleuve sacré, c'est un conte qui parle sur l'aspect rationnel de la vie. C'est-à-dire que toute philosophie, toute idéologie, toute pensée doit pouvoir être critiquée sur des bases scientifiques, sur des bases de raison. Donc là, c'est l'histoire aussi d'un vieux qui, avant de mourir, va donner à ses trois enfants trois sacs qui représentent leur héritage. Et dans chaque sac, il y a quelque chose. Et donc, il faut qu'il trouve les symboles de ces sacs. Et là, c'est un conte philosophique et en même temps initiatique. Et puis, le dernier exemple, j'ai parlé de l'histoire de le destin d'une jeune fille à qui on avait promis un mariage heureux. Donc voilà, ça c'est Contes d'Afrique, la sagesse qui est sorti chez Milan. Ce sont mes deux livres qui sont sortis pendant le confinement.
Allez,
Voilà.
Souleymane Bodj, merci beaucoup d'avoir passé du temps
Je
avec
vous en
nous.
prie.
Une dernière question avant de vous laisser partir, puisque ces contes, vous les écrivez, vous les inventez, vous allez puiser évidemment dans la tradition et les personnages traditionnels, mais ce sont des contes écrits actuellement.
Écrit. Oui, actuellement.
Est-ce que dans votre travail d'écriture, la crise sanitaire du Covid mondial d'aujourd'hui a une place? Est-ce que vous essayez d'écrire quelque chose là-dessus?
Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que même j'avais fait une vidéo qu'on m'avait demandé, parce que comme je ne pouvais plus aller dans les écoles un peu partout, on m'a demandé raconte-nous une histoire sur YouTube et tout, et j'ai raconter une histoire en fait qui correspond avec des chansons. Donc j'ai écrit sur l'histoire notamment d'une petite chèvre à qui sa mère interdisait de sortir parce qu'il fallait pas sortir à une certaine heure. Mais comme elle voulait être libre, elle pense que la liberté c'est faire tout ce que l'on veut. Et la mère lui dit, attention, la liberté, ce n'est pas faire tout ce que l'on veut. Et puis, de toute façon, maman, toi, tu comprends rien, voilà. Alors, il lui dit, écoute, l'adulte voit assis, l'enfant ne le voit pas debout. Et ce conte-là, que j'ai raconté pendant le confinement, correspond à ce qui se passe actuellement. Et là, je suis, évidemment, j'ai encore d'autres textes à écrire, où justement, la fragilité de l'homme sera bien racontée, par exemple, face à des virus, à des phénomènes qui nous guettent. Voilà, que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit les virus qui circulent partout. Donc, raconter une histoire sur notre fragilité.
Merci beaucoup, Souleymane Bodge. On se donne rendez-vous mercredi après-midi à la médiathèque Mémo de Montauban dans le cadre de Partir en livre. C'est organisé par l'association Confluence à Montauban. Merci à vous.
Merci à vous.